14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
C'est l'une des disparitions les plus mystérieuses. Une affaire qui marque l'histoire judiciaire depuis plus de 50 ans. La disparition du juge Crater, l'homme le plus disparu d'Amérique. In America.
Bonjour, Joseph Force Crater était en passe de devenir l'un des juges les plus influents de New York et même des États-Unis. Intelligent, fin juriste, impitoyable avec ceux qui pouvaient enfreindre la loi. En cette année 1930, à 41 ans, il venait tout juste d'accéder à de hautes fonctions jusqu'à ce qu'il disparaisse au cœur de Manhattan à l'été 1930. Dès les premiers jours, l'enquête sur la disparition fait voler en éclats le portrait flatteur du haut magistrat. On découvre un mari volage qui a des maîtresses, court les starlettes des music halls, un juge également obsédé par l'argent, au point que les investigations vont se pencher sur de possibles faits de corruption. Ces travers secrets ont-ils causé sa perte? Avec qui avait-il rendez-vous ce soir de mois d'août à Manhattan? Comment cette affaire est-elle devenue l'un des plus grands mystères criminels américains, au point de traverser le temps et d'agiter toujours les imaginations? Question posée aujourd'hui à nos invités.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition inexpliquée à l'été 1930 à New York d'une des personnalités les plus en vue de la ville, Joseph Force Crater, un juge craint et respecté qui vient d'accéder à de hautes fonctions, promis à une carrière prestigieuse. Pas question d'ébruiter tout de suite l'affaire. Samedi 9 août 1930 dans l'après-midi, Stella Wheeler Crater commence à s'inquiéter. Elle tourne en rond dans la petite maison de vacances de Belgrade, dans le Maine, dont les fenêtres s'ouvrent sur un grand lac et d'immenses forêts verdoyantes. Son mari, le juge Joseph Force Crater, 41 ans, a quitté le cottage il y a 6 jours pour se rendre en train jusqu'à New York, à 500 km. Il avait des affaires urgentes à régler. Il a promis à Stella qu'il serait de retour ce samedi, jour de son anniversaire. Il lui a même fait livrer son cadeau, un nouveau canoë. Les heures s'égrènent, mais Joseph ne se montre pas. Il arrive à son mari de s'absenter et de disparaître quelques jours, sans donner de nouvelles. Stella a pour habitude de ne poser aucune question, mais cette fois-ci, elle s'interroge. Le lendemain, dimanche, elle téléphone à leur appartement new-yorkais au numéro 40 de la 5e avenue. La sonnerie résonne dans le vide. Lundi, Stella demande à son chauffeur d'aller voir ce qui se passe à New York. Elle exige la plus grande discrétion car son mari va bientôt faire son entrée à la Cour suprême de New York. Elle ne veut pas que cette histoire d'absence s'ébruite. Le chauffeur va rapporter que le juge n'a plus été vu depuis le mercredi 6 août. 3 jours après qu'il a quitté sa femme. Il précise que personne ne s'inquiète à New York et que M. Crater ne va pas tarder à réapparaître. Stella Wheeler Crater, cloîtrée dans la maison de Belgrade Lakes, patiente encore quelques jours, puis contacte un détective privé. Elle n'a aucune idée d'où se trouve son mari. Elle raconte que le dimanche 3 août, date de son départ, il a reçu un coup de fil longue distance à l'épicerie du coin. À l'époque, c'est vrai, le cottage n'est pas équipé du téléphone. Quand il est revenu à la maison, il a annoncé qu'il devait partir tout de suite pour New York. « Je dois recadrer certaines personnes », a-t-il déclaré. Il a pris le soir même un train de nuit. Le détective sait qu'à son arrivée à New York, Joseph Crater a donné congé à sa femme de ménage. Seule certitude, il était vivant jusqu'au 6 août au soir. Ce jour-là, il a été aperçu par des témoins, notamment dans son bureau de la Cour suprême à New York, sur la 60e rue. Ses collaborateurs l'ont vu travailler sur des dossiers. L'épouse finit par alerter des collègues de son mari, parmi lesquels Simon Rifkin, qui travaille au cabinet du sénateur démocrate de New York, Robert Wagner. C'est grâce à l'influence de ce parlementaire que Crater a été nommé à la Cour suprême. Rifkin n'est pas dupe. Joseph Crater est certes réputé pour être un bon mari, qui ne boit pas, ne fume pas, mais on lui connaît des penchants pour les très jeunes danseuses, les prostituées de luxe. Le poker. 25 août, 19 jours après la disparition, le juge est absent à la rentrée de la Cour suprême. Son fauteuil est vide. La police de New York est alertée. La police est mobilisée pour retrouver le haut magistrat. Elle va fouiller dans sa vie privée. Mercredi 17 septembre 1930, 100 000 affichettes portant la photo de Joseph Force Crater sont affichées dans les bureaux de poste, les hôtels et les commissariats de New York. Une récompense de 5 000 dollars est offerte pour tout renseignement permettant de retrouver le juge, un homme de 1,82 m pour 83 kg qui porte des costumes de marque Vroom et une montre en or au poignet. Son index droit est bandé après être resté coincé dans une porte de voiture. Le commissaire Edward Mulroney mobilise une trentaine d'inspecteurs, parmi lesquels les experts du bureau des personnes disparues. La police apprend qu'un mois avant de disparaître, le juge a déjà quitté une fois sa maison de vacances, l'espace d'un week-end, pour aller s'amuser dans la station balnéaire d'Atlantic City. Il était là-bas avec deux hommes et quatre femmes. Les enquêteurs apprennent alors que le juge a un surnom, Good Time Joe. Joe le fêtard. Quand il est arrivé à New York le lundi 4 août au matin, il est passé à son appartement. À midi, il a déjeuné seul. En fin d'après-midi, il a vu son médecin pour sa blessure au doigt. Le soir, il a pris des verres à l'Abbey Club, fréquenté par la pègre et connu pour ses spectacles de travestis. Mardi 5 août, il a passé du temps à son bureau. Le soir, il a dîné avec son médecin. Crater était de bonne humeur. Il a joué aux cartes avec le docteur jusqu'à minuit. La police de New York reconstitue avec un maximum de détails la fameuse journée du mercredi 6 août, la dernière où le juge Crater a été vu en vie. Il est arrivé assez tôt le matin à son bureau, il a trié ses dossiers, il les a reclassés, a détruit des documents. À 11h, il a demandé à son secrétaire particulier, Joseph Mara, d'aller retirer sur ses comptes de la Chase National Bank et de l'Empire Trust Company un total de 5 100 dollars, une somme considérable à l'époque. Mara est revenu avec deux grosses enveloppes. Crater n'a pas recompté les billets, il a mis l'argent directement dans sa poche. Les enquêteurs découvrent que deux mois auparavant, il avait déjà retiré 7 000 dollars en liquide. Le juge a emporté plusieurs dossiers dans un attaché case. En quittant le bureau, il a déclaré qu'il partait nager tout l'après-midi à Westchester. Réflexion étonnante pour un homme qui déteste nager. Il n'est jamais allé à Westchester. On l'a vu dans les heures suivantes, en compagnie d'une danseuse de cabaret, June Bryce, puis sur Broadway, où il a acheté un ticket pour le spectacle Dancing Partner, donné à 21h au Théâtre Belasco. Avant cela, il a dîné avec un vieil ami et une autre danseuse, blonde, très à la mode, Sally Ritz. L'ami et la danseuse déclarent l'avoir vu quitter le restaurant en taxi, alors que le Théâtre Belasco est à 5 minutes à pied. Les deux témoins vont ensuite revenir sur leur déclaration. Les policiers s'interrogent sur ces énormes retraits d'argent et les documents emportés. Rien n'est retrouvé dans l'appartement. Ils pensent à un possible chantage financier exercé sur le juge. La danseuse June Bryce ne va pas pouvoir être interrogée, elle est introuvable. Elle réapparaîtra 18 ans plus tard, démente, dans un asile psychiatrique. L'autre danseuse, Sally Ritz, va elle aussi disparaître. On ne va jamais la retrouver. Une troisième femme que fréquentait assidûment Crater, connue pour faire chanter ses clients, sera découverte assassinée 9 janvier 1931, 5 mois après la disparition. L'enquête est close. Le grand jury annonce n'avoir aucune preuve pour conclure à un crime ou à une disparition volontaire. Bien des pistes, mais le magistrat reste totalement introuvable. Dimanche 18 janvier 1931, 9 jours après la clôture officielle des investigations, Stella Wheeler Crater, épouse du disparu, revient pour la première fois dans l'appartement new-yorkais du couple. Le logement a été perquisitionné à 2 reprises par les policiers. Ils n'ont trouvé ni dossier ni document. Pourtant, dans le tiroir d'une coiffeuse, l'épouse découvre 4 enveloppes Kraft. À l'intérieur, 6 619 dollars en cash, des chèques, une assurance vie à 30 000 dollars ainsi qu'une liste de 20 compagnies financières où l'argent est déposé. Au bas de cette liste, il y a cette simple note manuscrite « Suis très fatigué ». « Je t'aime, Joe », le diminutif de Joseph. Stella Wheeler Crater informe le procureur de New York de sa découverte, mais l'enquête n'est pas relancée. Mardi 6 juin 1939, même si aucun corps n'a été retrouvé, Joseph Crater est officiellement déclaré mort. Les spéculations sur le dossier vont bon train. L'avocat de l'épouse fait savoir que le juge a sans doute été tué par des malfrats qui le faisaient chanter. Le commissaire Édouard Mulroney voit plutôt un homme empêtré dans des problèmes financiers. Cette disparition était préparée et préméditée, dit le policier. La piste politique est évoquée. Le juge aurait donné beaucoup d'argent à ses amis démocrates pour être nommé à la Cour suprême. Il craignait peut-être qu'une commission d'enquête anticorruption récemment créée les démasquait. Le juge Crater aurait préféré prendre la fuite. Aucun acte de corruption ne sera toutefois détecté contre lui. 75 ans plus tard, un rebondissement effectivement imprévisible. Vendredi 5 août 2005, la police de New York indique que son unité Cold Case travaille sur une information qui concerne la disparition du juge Joseph Crater. La petite fille d'une certaine Stella Ferrucci Good, qui vient de décéder, a trouvé une enveloppe dans les affaires de la défunte avec l'inscription « À n'ouvrir qu'après ma mort ». Une lettre indique que son mari, ancien policier new-yorkais, lui avait confié que deux de ses collègues, les frères Charles et Frank Burns, avaient tué le juge Crater. Ces deux frères policiers étaient connus pour travailler avec la pègre. La lettre indique que le juge a été enterré à Coney Island, sur le site actuel de l'aquarium de New York. La police confirme que les frères Burns étaient bien enregistrés comme policiers à l'époque de la disparition. Elle confirme aussi que des restes humains avaient été exhumés au milieu des années 50 lors de travaux à l'endroit où se trouve l'aquarium. Depuis la disparition du juge, la police de New York a enregistré des centaines de signalements. Un corps tombé d'une falaise serait le sien, on l'a vu se promener sur le bord de mer à Atlantic City. On l'a reconnu parmi les patients d'un sanatorium, ou bien en train de se faire raser dans le fauteuil d'un barbier du Nord Dakota. Des années après la disparition, sa trace était toujours signalée en Amérique du Sud, au Canada et même dans les rangs de la Légion étrangère française. Tué par les politiques, par ses mauvaises fréquentations, ou bien mort dans les bras d'une maîtresse. Le dossier numéro 13595 de la police de New York, celui de la disparition du juge Crater, est officiellement clos depuis 1979. Depuis cette date, pourtant, les vérifications occasionnelles sur la base de témoignages ou même d'indications données par des voyants n'ont jamais cessé. Richard Toffel, l'un des meilleurs spécialistes de l'affaire et auteur d'un livre sur le sujet, n'exclut pas que la nuit de sa disparition, Joseph Crater ait rendu son dernier souffle dans les bras d'une prostituée, dans une maison de passe tenue par la plus célèbre proxénète de l'époque, Polly Adler. In the absence
of facts. Toujours pas de preuves dans la disparition du juge Crater. Les théories s'accumulent, mais la vérité reste introuvable. Plus on se penche sur le dossier et plus on a des questions. C'est pour ça que sa disparition captive toujours autant.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.